Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur les antennes de l'ASA France. Bienvenue pour vivre ce grand moment de sport. L'histoire s'écrit cette année au Qatar. Qu'elle soit glorieuse ou non, qu'on le veuille ou non, le feuilleton Qatar 2022 s'épilogue maintenant, ce dimanche 18 décembre à 16h. Au Lusail Stadium de Doha et peut-être pour se prolonger tout au long de la soirée. France-Argentine, c'est l'affiche de cette finale de la Coupe du Monde 2022.
Déambulation.
Cette année, je voulais pas en entendre parler.
Mais là, il n'y a pas d'ambiance au foot. Il vient d'avoir tâté l'ambiance au truc.
Pour moi, la dernière fois, c'était en 98.
Dans l'air rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Zidane
sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes.
Erdiwa présente Tire au cœur, mon ami, les jardins nourriciers, un jour de finale. Pardon monsieur, est-ce que vous pouvez me dire là ce qui se passe à la Forge d'Auguste ce soir ?
Oui. Alors c'est très généreux. J'ai appris que voilà, on offrait du vin chaud, de la soupe à l'oignon, mais il n'y a pas de fromage. Donc c'est peut-être une originalité, une soupe à l'oignon. D'habitude on la mange au hâle, n'est-ce pas ? Vous mangez votre soupe à l'oignon au hâle à Paris, au pied de cochon. Là, on est au pied du mur, là, il n'y a pas de fromage.
Vous avez le tableau et on va pouvoir vivre ça ensemble. C'est Hugo Marceau pour vous commenter en audio description cette très belle finale, cette alléchante finale de la Coupe du Monde 2022.
Non, mais c'est très, très sympathique. Ça forge le caractère, ces lieux-là, vous savez. Ça forge, voilà, tout ce que j'ai à dire. Mais c'est bien.
Vous en connaissiez des endroits comme celui-là avec toute cette énergie que vous ressentez à Paris ?
Ah non, c'est fini. Ça existait. Des énergies gratuites comme ça, ça a existé, mais maintenant avec la précarité chez tout le monde, c'est devenu tendu, individualiste. Mais là, dans la Drôme, non, ça, c'est chaleureux, ouais, ça, c'est bon signe quand même. C'est des lieux de résistance. Mais à Paris, non, c'est dommage. Ben, à Paris, ça devient touristique, c'est Airbnb, je ne sais pas quoi. Dans l'immeuble, il n'y a plus de propriétaires, il n'y a que des gens de passage. Enfin, c'est du transit, c'est du flux capitalistique, c'est n'importe quoi. Voilà, le fric. Donc c'est bien ici. Voilà.
Comment c'est votre prénom ?
Franck.
Les amis, le coup d'envoi de cette finale de la Coupe du Monde 2022 va être donné par Monsieur Marcignac, le Polonais, qui s'apprête à porter le sifflet à sa bouche. Ça y est, c'est parti. Le coup d'envoi est donné par les joueurs français et Antoine Griezmann. Les Bleus qui attaqueront les zones A et B, donc défendront les zones C et D. Ce sera l'inverse pour les Argentins qui iront attaquer sur la droite.
Eh ben, ce qui se passe ce soir à la Forge d'Auguste, c'est simplement un peu un pot d'amitié pour tous les adhérents de l'asso qui sont là et qui ont œuvré un peu sur les jardins nourriciers, pour les jardins nourriciers, depuis toute cette année avec tous les changements qu'il y a pu y avoir. Voilà, ils sont là, ils sont remerciés par l'assaut avec une bonne soupe à l'oignon et un vin chaud, un bon vin chaud quoi.
Mbappé, c'est parti pour Lionel Messi, c'est contre-pied 1-0 pour l'Argentine dans cette finale de Coupe du Monde. Léo Messi met sur la voie l'Albi Céleste, met sur la voie tout un pays qui exulte après cette ouverture du score sur pénalty de son capitaine. Contre-pied parfait, comme il sait si bien les réaliser, Hugo Lloris qui a plongé sur sa droite, à gauche en regardant le but du capitaine français.
Ok, alors qu'est-ce que vous pouvez me raconter donc, de la naissance c'était, de cette association?
Oh là là, ça date là. Alors moi je ne suis pas non plus dans les initiateurs de cette association, mais j'y suis depuis peut-être les débuts, c'est vrai. Cette association en fait a été créée, je vais peut-être dire des bêtises, mais il y a eu plusieurs étapes. Et donc il y a eu une première création avec des personnes qui ne sont plus sur le site actuellement, qui ne sont plus sur l'association, qui ont créé l'association avec un gros projet de financé par l'Europe, financé justement pour permettre de donner accès au jardin à tous les habitants du Diwa qui auraient envie de partager du jardin et ne pas faire tout seul du jardin. Et l'association en fait a récupéré des parcelles qui appartenaient à des personnes qui n'utilisaient plus, qui ne faisaient plus de culture dessus. Donc ils ont récupéré ces parcelles pour essayer justement de les remettre en vie et de redynamiser du maraîchage sur ces parcelles. Donc deux permanents au départ étaient sur le lieu, pas à plein temps, mais ils ont œuvré pour accueillir les bénévoles sur les jardins et donc en même temps essayer de créer toute une culture maraîchère de base qui peut se développer sur le Diwa et permettre comme ça de nourrir un certain nombre d'habitants sur le Diwa.
Comment ? C'est très chaud le verre. Ça va aller pour toi ?
Merci.
Super.
Et le temps additionnel touche à sa fin. Jules Koundé a le ballon. On est dans la zone D avec Coman. Peut-être la dernière opportunité pour les Français. Le débordement de Coman. Allez le centre. À suivre. Il y a du monde dans la surface. Il est écrasé ce centre. Il n'y a personne en retrait pour reprendre ce ballon. Alors il y a eu un petit cafouillage. Est-ce qu'on va jouer la contre-attaque côté argentin? Attention, Messi qui se retourne. Le ballon profondeur pour Julian Alvarez. Il est tout seul. Attention. Allez, Jules Koundé, le retour. Attention, 8-23. On a dépassé devant ce goal. Le temps additionnel. Il se présente dans la surface de réparation. Ils sont deux dans la surface. Le centre en retrait avec Messi. Messi qui va donner au deuxième poteau à McAllister face à Varane. On s'est bien replié. Allez, dégagez-moi ce ballon. Oui, Kamaviga, oui. On aura le droit à une prolongation dans cette finale de Coupe du Monde 2022. C'est absolument dingue. Je n'ai même pas changé le score. Je m'en excuse. Je suis un petit peu à gérer tous les postes dans cette finale. Et en plus, je dois gérer les émotions.
Marie, animatrice à l'EVS, là-bas dans le fin fond donc, de la vallée de Quin. Et tu es là ce soir pour cette soirée organisée par les jardins nourriciers. Et voilà, et on sait que les jardins nourriciers, ça se transforme pour autre chose. Quel est ton ressenti ?
Je suis plutôt confiante dans le sens où il y a l'équipe des jardins nourriciers, autant au niveau CA, salariés bénévoles, qui ont déjà bien réfléchi aux futurs axes que ça pourrait prendre. Et du coup, ça s'adapte un peu aux besoins, aussi aux contraintes que par l'expérience de jardinage, de maraîchage qu'ils ont pu constater. Et du coup, c'est mouvant et c'est hyper intéressant.
Et c'est intéressant aussi pour une animatrice donc, de VS, parce que ben, c'est le, aussi toi, tu les as accompagnés pendant, ben, le, disons, le VS de, donc, de, pardon, de Val-de-Quin, bien sûr, les accompagne ce projet depuis longtemps.
Alors c'est plus le cas du coup depuis un an, il y a eu la fin de la convention. Oui, ça a été vraiment hyper enrichissant ces trois années de partenariat avec l'expertise technique des jardins nourriciers, leur capacité à mobiliser des bénévoles jardiniers et puis en appui l'appui administratif de Val-de-Quin sur la gestion voilà, du financement leader, sur la partie distribution et animation de marché. Enfin, c'était du coup des compétences qui se rencontrent et qui se complètent, quoi. Et je pense qu'on a eu des très très belles saisons de petits marchés, donc les trois saisons de petits marchés, enfin deux saisons de petits marchés en tout cas sur 2021-2020 avec la vente des légumes animés voilà, par des spectacles, des concerts, des initiations et du coup c'était une très belle, enfin, voilà, c'était une l'occasion de redynamiser la vie locale et puis de vendre des légumes d'une très grande qualité quoi et c'était très, un bon souvenir.
Il va falloir que tu nous en sortes au moins un. Au moins un, mon grand. Allez, Paulo Dybala qui a fait sa rentrée dans les derniers instants. Oh, c'est plein axe, Hugo qui a failli la toucher du pied. Aïe, 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 aïe. 2-1. 2-1 pour les Argentins.
Bon, alors, comment c'est votre prénom d'abord?
Moi, mon prénom, c'est Camara Mohamed Lamine.
Ok, alors comment vous avez assisté au match d'abord?
Oui, j'ai assisté le match, oui.
Et comment, alors ça s'est passé comment?
Bon, vu l'état de l'équipe française, moi j'avais vu, je regarde beaucoup le foot, je connais l'équipe française et je connais l'équipe argentine, j'avais donné mon pronostication en disant que l'Argentine allait gagner. Et parce que l'équipe française, depuis le début du tournoi, ils ont joué que ce équipe qui ne changeait pas. Il n'y avait pas de remplaçant. Ce n'est pas comme l'année dernière, l'équipe qui était en France et aujourd'hui. Donc, même en mi-temps, Deschamps, l'entraîneur avait dit qu'il s'attendait à ça parce que face à l'équipe argentine, c'est pas une équipe où on gagne facilement quoi.
Parce que du coup c'était moins collectif finalement,
oui,
cette équipe.
Oui, en tout cas c'est comme ça moi j'avais pensé et comme le foot est ingrat et le foot a montré autrement et avec la solidarité des équipes françaises et ils se sont montrés qu'ils pouvaient donner plus que moi je pensais. Ils l'ont prouvé et c'était bien par rapport à leur épreuve quoi. Moi j'étais surpris d'avoir l'équipe française donner plus que ce que j'imaginais quoi. Vraiment, et je les apprécie.
Bonjour, bonsoir. Quel est votre ressenti ce soir après la, donc, du coup, cette finale perdue par la France?
Bah écoutez, assez fier quand même de nos joueurs. Hein. Ils ont très bien joué. C'était un très très beau match. Et malgré notre défaite, les Français restent quand même dans nos cœurs.
Et vous?
Bah moi pareil, je trouve que c'est un très beau match. Et Kylian Mbappé, il a très bien joué. Sinon, bah très déçu de ne pas avoir gagné.
Et vous?
On a vécu des moments forts qui nous ont touché le cœur. Et ce match est vraiment pour moi le plus beau de ma vie, même si l'équipe de France a perdu. Bravo aux Argentins, Messi meilleur joueur du monde, maintenant on peut le dire, voilà.
Ce serait une énorme histoire. Montiel pour la gagne, c'est fini. Les Argentins sont champions du monde. Les Argentins sont champions du monde pour la troisième fois de leur histoire. La troisième étoile sera pour l'Albi Céleste. Les Bleus s'inclinent en finale de la Coupe du Monde.
Dans les rues de Buenos Aires, devant l'obélisque, une déferlante de bleu ciel et de blanc. Tout un peuple qui chante à l'unisson dans un pays traversé par les crises économiques, où près d'un Argentin sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Ils n'ont pas souvent eu le cœur à célébrer, mais cette nuit, tout leur est permis.
Ce n'est pas tous les jours facile. On a des problèmes d'argent, sociaux, peu de travail, mais on va toujours de l'avant.
L'espace d'un instant, on oublie tous nos problèmes grâce à ces joueurs. Et pour ça, on les remercie.
Au début, j'étais un peu dans le boycott et tout ça. Et puis après, bon, au fur et à mesure des événements, tu t'aperçois que le boycott, finalement, c'est pas forcément une... Il n'est pas suivi. Enfin, il y a assez peu de gens qui jouent le jeu. Et puis finalement, je sais pas, une Coupe du Monde, c'est un truc, c'est un moment où les nations se rencontrent. Donc, quelque part, il y a ça d'intéressant aussi. Il faut le prendre. Tu vois, après, je pense que ça a été tellement médiatisé, tout ce qui s'est passé autour de la construction des stades et de ce qui se passe au Qatar, que quelque part, ça a été productif. Je pense que le monde entier a pris conscience de ce qui se passait là-bas quand même.
C'est un pays qui aurait pu ne pas exister. Une monarchie qui aurait pu rester l'une des plus pauvres de la planète. Grâce à la découverte du gaz, l'émirat du Qatar, cette nation très secrète de seulement 300 000 ressortissants, s'est lancée depuis trois décennies à la conquête de la planète.
Nous sommes un petit pays, nous n'allons pas le nier, mais nos ambitions sont grandes.
Tous ces riches là qui courent après un ballon.
Oui, c'est ça. Donc bon, mais t'as aussi le côté hyper populaire. Enfin, c'est le paradoxe de ce foot, enfin de ce sport. Moi, j'y connais rien, mais t'as le côté les plus pauvres et de la planète adorent ce foot. Enfin, ce sport, ça relie énormément de gens. Et à côté de ça, voilà, t'as des extravagances de monétaires et de finances et de pubs, de marketing et tout ça. Bon, c'est une synthèse un peu du monde actuel, non ? Hein ? Toutes les inégalités et le fait que ça relie quand même beaucoup de monde au milieu. Mais c'est chouette, je trouve. C'est un beau match, tu vois. Ça a procuré quand même de l'émotion à des milliards de gens sur Terre. Et de vivre un truc tous ensemble au même moment, ça c'est quand même chouette.
Ces gratte-ciels sont à la hauteur des ambitions démesurées du Qatar. Mais ceux qui ont construit les tours de Doha n'auront jamais les moyens d'y habiter. Eux vivent loin du centre-ville, au bout de ces autoroutes. Pour nous y rendre, un travailleur kényan nous guide. Il accepte de témoigner, à condition d'être anonyme. Nous l'appelons Ibrahim. Il dit avoir payé 1500 euros à une agence de recrutement kényane pour son visa et son billet d'avion. Ce n'est qu'une fois sur place, en 2020, qu'il découvre l'entreprise qatarienne qui l'a embauché.
Quand je suis arrivé, le jour même, j'ai commencé à travailler. Au début, on faisait du ciment pour des immeubles, de la construction, quoi. L'été, il fait très chaud ici. La température monte parfois au-dessus de 50 degrés. Ce n'est pas facile. Quand on travaille dehors, la chaleur nous écrase. On a l'impression qu'on va mourir.
Comme la majorité des travailleurs étrangers, Ibrahim est logé par son employeur à des dizaines de kilomètres de la capitale, dans ces immenses cités dortoirs, isolées de tout.
Excuse-moi. Pardon, tu m'as dit à l'instant que le match avait été chouette aussi.
Oui, le match a été fantastique. C'était un super match de foot avec des rebondissements. C'était un vrai drame, au sens art dramatique.
Paulo Dybala, qui a fait sa rentrée dans les derniers instants. Oh, c'est plein axe, Hugo, qui a failli la toucher du pied. Aïe. 2-1. 2-1 pour les Argentins. Et là, c'est très compliqué. Oh, il la touche presque. Il a choisi, quel choix risqué de la part de Paulo Dybala qui avec son pied gauche, la Roya qui vient mettre ce ballon plein axe.
Et du coup, on pourrait presque considérer que le football, bah, c'est aussi culturel.
Ah bah, c'est complètement culturel, oui. Pour les gens qui ont grandi dans cette culture et qui sont pris par ce phénomène, c'est carrément culturel.
Je te pose la question parce que je suis censé faire une page culture et du coup, en venant ici, donc assister notamment à ce match de foot, mais en venant aussi à cette soirée proposée par les jardins nourriciers, je me demandais un peu, tiens, comment je vais raconter tout ça. Et toi, les jardins nourriciers, tu connais?
Les jardins nourriciers, c'est une association qui propose du jardinage participatif. Et ça, c'est... Mais est-ce culturel? Qu'est-ce que la culture? C'est pas de l'art, mais c'est de la culture.
De quelle manière c'est culturel que de faire du jardin ou de jouer au foot?
Ah bah, alors ça dépend ce qu'on entend par culture, mais là c'est une culture de la participation, de l'échange, du faire ensemble et de trouver des solutions pour tous, etc. Et le foot c'est une autre sorte de culture, c'est aussi un sport collectif. Les gens qui n'aiment pas le foot parlent toujours de cette espèce d'opposition, mais c'est avant tout un quelque chose de collectif où on est solidaire avec des gens, on joue avec une autre équipe. Enfin, c'est contre, mais c'est avec. Enfin, voilà. C'est des valeurs, quoi, mais qui sont... Enfin, après, voilà, il y a le business, il y a toutes ces choses-là. Enfin, mais...
Et là, que les joueurs n'aient pas dénoncé quand même ce qui se passe ou ce qui se passe au Qatar et les conditions de construction de ce stade. Voilà, de quelle manière tu y as pensé à ça?
Bah, déjà, je trouve que c'est indécent de demander ça aux joueurs qui sont que le bout de la chaîne. Tout ça, c'est un système. Et on pourrait aussi rappeler qu'en 1978, la Coupe du Monde qui s'est tenue en Argentine se déroulait dans des stades où, dans les sous-sols desquels il y avait des tortures. Personne ne disait rien. Alors qu'est-ce qui est différent? Il y a la Russie, il y a la Chine, les Jeux Olympiques en Chine, il y a des événements aux États-Unis qui commettent des horreurs aussi partout dans le monde. Enfin, quelle est la limite, quoi? Quelle est la limite de l'acceptable? Voilà.
Et on m'a dit aussi que c'était une occasion de parler et de faire entendre ce qui se passe réellement aussi au Qatar, du coup, cette Coupe du Monde de foot.
Ben, on peut. Alors, je dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, c'est des choses qui font voir des phénomènes, qui peut-être ouvrent certaines portes, qui renferment d'autres. Oui, ça a un coût énorme, humain, écologique et tout ça, mais enfin, c'est moi, je trouve que c'est une illusion de croire que le problème est ça. Le problème est beaucoup plus systémique. Et peut-être que ça fait avancer certaines choses d'une manière qu'on ne comprend pas, en fait, qu'on ne comprend pas encore, mais qui sera dans le temps, quoi.
Les Bleus s'inclinent en finale de la Coupe du Monde. C'est terrible pour les Bleus qui s'inclinent, mais il y a une forme de logique. Mais il y a une forme de logique parce que l'équipe de France a été à la rupture tout au long de la rencontre. L'équipe de France a un supplément d'âme qui fait qu'elle est toujours présente. Mais l'équipe de France se sera butée, aura buté face à l'obstacle des tirs au but. L'image est incroyable, les images sont folles, les Argentins sont en larmes. Les Argentins, messieurs, dames, sont champions du monde.
Alors je suis Delphine, je suis au Jardin Nourricier depuis presque 3 ans maintenant. Et je suis au conseil d'administration du Jardin Nourricier et je suis jardinière aussi.
Alors, comment se porte l'association, donc les jardins nourriciers? Quelles sont les nouvelles?
Voilà. Les nouvelles, c'est qu'on est à un tournant. À nouveau, le projet, il existe depuis... Enfin, en tout cas, l'association a été créée en 2016. Et il y a eu plusieurs étapes et on est encore dans une de ces étapes. On va faire un peu une évolution du modèle qui a été choisi au départ. Donc là, on avait 2 salariés depuis 2 ans. Et aujourd'hui, on a fait des ruptures conventionnelles avec nos salariés parce que le modèle, en l'état actuel, avec les 9 parcelles qu'on a qui sont éclatées, qui demandent une certaine façon de travailler, avec les gens qui étaient là au conseil d'administration, leur expertise, leur savoir et leur rythme de travail, on est arrivé à une fin, en fait, où on n'arrive pas à payer et les salaires et toutes les charges qui sont liées au fonctionnement d'un jardin tel qu'il se présente aujourd'hui. Enfin, d'un jardin, de plusieurs parcelles telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de réfléchir à nouveau comment on fait avec ces terres qui existent, qui sont des sols vivants, qui sont cultivés depuis plusieurs années, toute l'histoire qu'il y a autour de ces sols. Comment on fait pour continuer à le faire vivre avec l'enjeu de cultiver ensemble, à plusieurs, et d'avoir une autonomie collective en fait, et de donner accès à l'alimentation à tous en venant jardiner dans ces jardins. Voilà où on en est.
Tire au cœur, mon ami. Les jardins nourriciers, un jour de finale.
Phénoménal, phénoménal Lionel Messi. Bravo monsieur pour tout. Mais bravo n'est pas assez pour une carrière. Voilà, fais ton tour. Il est en train de faire un tour d'honneur déjà. Monsieur, vous êtes un grand, vous êtes un énorme, vous êtes un gigantesque, vous êtes au-dessus de tout. Et monsieur Mbappé, vous êtes au-dessus de tout. Tout le monde est en larmes côté argentin, c'est absolument incroyable.
Sur RDWA 107.5 et 101.7 FM.
C'est légendaire ce qu'on a vécu ce soir. Les Bleus, oui les Bleus s'inclinent et ne seront pas champions du monde pour la seconde fois consécutive. Non, les Bleus ne verront pas l'Elysée comme ils l'auraient voulu, les Champs-Elysées quand même ils l'auraient souhaité, c'est-à-dire noir de monde avec des sourires aux lèvres. Les Bleus laisseront des regrets dans cette finale parce qu'ils ont été mangés en première mi-temps. Mais les Bleus ont un pouvoir magique et ils ont Mbappé. Ils ont un pouvoir magique et ils ont Mbappé. Les Bleus ont un avenir radieux encore parce qu'on a des jeunes comme Randal Kolo Muani qui montrent pour la première fois. Et comment montrer pour la première fois autrement qu'être grand en finale de Coupe du Monde? Monsieur Randal Kolo Muani, encore une fois, un énorme respect.
Team, Je sais que toi, tu es dans ce projet Les Jardins Nourriciers depuis le début. Tu as été salarié. Voilà, on sait là, du coup, maintenant, que l'association va prendre d'autres orientations, se transformer certainement. Et toi, alors, tu as donné du cœur à l'ouvrage dans tout ce projet. Comment tu te sens ?
Eh ben, écoute, comment je me sens ? C'est une nouvelle page. Donc dans tous les cas de figure, il y a quelque chose qui est assez nourrissant là-dedans, de se dire, bon ben, on a expérimenté un modèle, une manière de faire, ça l'a pas nécessaire, enfin là, on n'a pas réussi à trouver la manière de faire pour que ça tienne la route, économiquement, pour viabiliser les emplois des salariés. Et en même temps, on a posé une base super intéressante de réflexion sur la mutualisation de l'outil de travail, sur... l'implication des habitants du territoire, qui puissent venir jardiner avec nous. On a en fait un super réseau qui est établi, d'adhérents qui sont pour la plupart aussi acteurs quelque part, tu vois, qui font de cet asso aussi leur propre projet. Donc moi, je te cache pas, voilà, ma situation en tant que telle, elle change un petit peu. Je passe de salarié à demandeur d'emploi, parce qu'on n'a pas réussi à viabiliser sous cette forme-là les jardins nourriciers, avec la vente des légumes, issus des jardins collectifs. Mais c'est pas pour autant que les jardins nourriciers s'arrêtent et que nous, on s'en écarte de trop non plus, tu vois. C'est un mal pour un bien, histoire de s'imaginer, bon, bah, demain, sur cette bonne base qui est faite, avec des terrains qui sont travaillés, avec un réseau de gens qui mettent du cœur à l'ouvrage, qui ont envie de faire vivre des beaux jardins, et ben, comment est-ce qu'on réinvente un modèle qui tienne un petit peu plus la route ?
Avec toutes ces questions d'alimentation et d'agriculture, on pourrait tout à fait reconstruire, changer le monde sans doute.
Ben non, je pense pas. Enfin, ou alors très, très difficilement et petit à petit. Là, l'idée, c'était plutôt de réinventer des tout petites échelles, pas le monde, tu vois. C'était déjà à l'échelle de quelques centaines d'habitants se poser la question de comment on se nourrit. Heureusement, ça commence à quand même percuter pas mal de monde. Les gens commencent à se rendre compte que, ne serait-ce que parce qu'on vit nous là en ce moment, les gens comprennent, tiens, il y a des gens qui font des légumes sur ce territoire depuis 6 ans, 7 ans, des légumes de qualité, avec un super projet social derrière, d'éducation, de transmission, d'accueil de tout le monde, dans toutes les conditions dans les jardins. Et ce modèle-là ne se viabilise pas malgré le fait que l'asso vend tous ses légumes. Donc quand des salariés historiques ou n'importe qui de cet asso t'explique « Oui, mais tous nos légumes, pratiquement, on les vend à perte si tu les ramènes à du temps de travail. » On a un modèle avec le salariat associatif qui rendait ça très difficile que de viabiliser des légumes. Et tu te rends aussi, par ce biais-là, compte un peu de l'absurdité du monde dans lequel on vit. Tu as sur un petit territoire des initiatives qui visent à produire localement des légumes de qualité, avec des semences paysannes, avec des sélections de ces semences pour les acclimater ici, avec des pratiques de travail du sol qui sont cool, qui sont réfléchies. Et en tant que tel, ça ne se suffit pas. Donc va falloir être super motivé pour espérer remonter de ce constat-là et se demander comment on fait demain pour produire des légumes de qualité avec des semences paysannes, avec des gens qui peuvent s'impliquer et rendre tout ça à peu près viable pour les gens qui le font. Voilà.
Et si possible, pour tout le monde.
Et voilà, idéalement.
Oui, et tu l'as dit tout à l'heure tout de même, Tim, vous avez changé aussi un peu de quelque chose de ce monde.
Non, je n'ai pas dit ça.
Et si. Tu as dit qu'il y avait quand même pas mal de monde qui s'était demandé un peu, un projet plutôt chouette, mais qui malheureusement n'aboutit pas. Et donc vous avez quand même réussi à interpeller un peu du monde et peut-être même à changer un peu de ce monde de point de vue.
Interpeller, à minima, on aura interpellé tous ceux qu'on a croisés dans les jardins en 6 ans ou 7 ans d'existence. Et qu'ils soient tous remerciés, parce que c'est que des belles rencontres qu'on a fait. Donc humainement, c'est une super expérience, les jardins nourriciers. En termes de pratiques culturelles, c'est une super expérience. En termes de personnes touchées, publics, croisées dans les chemins et dans les jardins, magnifique. Super expérience. Aujourd'hui, je te dis, c'est vraiment une situation où quelque part, il y avait... C'est même pas un échec, c'est une... On fait le constat qu'il y a des choses qui sont à être améliorées et repensées pour que cette asso, elle dure encore longtemps et qu'elle continue à faire ce qu'elle fait, mais voilà, d'une manière un peu réinventée. Et on espère que les idées qu'on creuse là en ce moment, ben, elles seront bonnes. Voilà.
Tire au cœur, mon ami, les jardins nourriciers un jour de finale, sur RDWA 107.5 et 101.7 FM.
Comment vis-tu donc cette période de changement ?
C'est pas simple, parce que y a des choses qui étaient établies, un rythme, une organisation, et il faut que chacun, tel qu'on est, on repense les choses de manière différente. Donc ça demande de faire un pas en arrière, de prendre de la hauteur par rapport à ce que chacun faisait et d'imaginer comment peut se passer la suite. Donc oui, ce n'est pas une période simple. Je pense que j'ai besoin, moi, d'une pause de quelques jours, quelques semaines de vacances, on va dire, pour pouvoir prendre un peu de recul et repenser à ce qu'on va faire par la suite. Et je pense qu'on est un peu tous dans ce même cas. On a besoin de se demander qu'est-ce qu'on va faire individuellement et qu'est-ce qu'on va continuer à faire collectivement pour faire continuer ce modèle, le faire avancer et trouver comment on peut faire du jardinage ensemble, se nourrir ensemble. Il y a plein de solutions.
Est-ce que vous avez un peu déjà une idée de ce qui aurait pu manquer durant ces années pour que le modèle puisse durer ?
Là, c'est une question trop large. Pour y répondre là simplement en quelques mots, je pourrais pas résumer une réponse claire. En tout cas, on tire enseignement de ces 6 ans d'historique de l'association pour essayer d'avancer avec l'expérience de ce qui s'est passé. Voilà.
Dans un projet collectif comme celui-là, les jardins nourriciers, est-ce que vous avez pu identifier durant ces années que justement, d'un point de vue collectif, il pouvait manquer un certain nombre de peut-être j'allais dire même de compétences ou de questionnements ?
Dans un projet collectif associatif, c'est vrai qu'il y a besoin de rassembler un certain nombre de compétences. Et les compétences qui sont en présence sont celles qui sont là, donc qui nous en manquent certainement, en tout cas dans le groupe qu'on forme aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va aller chercher aussi en présentant les futures pistes d'évolution des jardins et en proposant et en demandant d'avoir certaines expertises qui permettent de mieux se structurer pour continuer à avancer dans cette organisation. Et le collectif, c'est magique, ça fait bouger, avancer les choses. Mais ça a aussi les défauts de ses qualités. C'est qu'il faut toujours trouver des consensus et des façons de projeter ensemble, en tout cas. Et c'est tout l'exercice qu'il y a à continuer à faire et qui va continuer à évoluer avec cette perspective-là, de se dire comment on fait à plusieurs pour avoir le même objectif, la même perspective en faisant du jardinage.
Alors, t'as pas de ça, donc sinon je les mets quelque part et je les prendrai à la main au dernier moment.
Là, je te les garde.
Ouais,
hein? Je te les garde là.
On va se quitter sur ces scènes de liesse argentine, ces larmes françaises, ces larmes albicélestes. On va se quitter, mais je veux qu'on garde à l'idée que cette Coupe du Monde, sur un plan sportif, a été monumentale. Et je veux qu'on garde cette apothéose qu'a été cette finale de Coupe du Monde que j'ai eu un immense bonheur de commenter en votre compagnie.
Du coup, pour finir, finalement, Stéphane, je te pose la question. Du coup, pour toi, la culture, c'est quoi ?
Je ne saurais pas répondre. Parce que ça, on parle de tellement de choses quand on dit la culture. C'est la culture d'un peuple, la culture d'une communauté, la culture, le fait d'être cultivé, la culture populaire, le mouvement de la culture populaire. Là, il y a tellement de choses que je trouve que c'est une question qui n'a pas de réponse.
Tout est culturel.
Oui, tout est politique, tout est culturel.
On vous remercie, amis auditeurs, d'avoir suivi cette Coupe du Monde sur le dispositif ASA France. Je parle au nom de tout le dispositif ASA France, au nom de tous les commentateurs qui se sont succédés sur les 64 matchs de cette Coupe du Monde. Ça a été un grand bonheur pour tous, ça a été très formateur, nous sommes tous des étudiants et nous avons pris énormément, énormément de plaisir à vous commenter ces rencontres.
ASA France, association All Service Access, un service de commentaires de matchs en audio description. Un projet présenté par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Salut à toi et merci Hugo Marceau. C'était « Tire au cœur, mon ami, les jardins nourriciers, un jour de finale », une réalisation Air Diwa, la radio du Diwa. Merci à toutes celles et ceux qui ont bien voulu nous confier un peu de leur voix. Merci aux jardins nourriciers. Archives, Arte Documentaire et France 3. Musique Titi Robin, Gitan. À bientôt sur les ondes de RDIWA 107.5 et 101.7 FM.
Cantando de esa manera. Con el ritmo de la rumba, mis manos me piden palmas, mi cuerpo me pide juerga. Si tú quieres aprender, ven aquí te enseñaré lo que pasa con la rumba. No pierdes el compás. Los gitanos de hoy en día, cuando se lían de juerga, se pasan horas enteras cantando de esa manera. Cantando de esa manera, con el ritmo de la rumba, mis manos me piden palmas, mi cuerpo me pide juerga.